La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale et on commence notre semaine en discutant platine et intersectionnalité puisque Clémence a pu s'entretenir avec Akira et Tina Tornade, deux DJ résidentes et membres de Zone Rouge, un collectif nantais qui souhaite donner plus de visibilité aux personnes minorisées dans la musique électronique. Et je vous propose que l'on écoute ça sans plus tarder. Très bonne émission à toutes et à tous.
Fin septembre 2020, le monde de la musique est secoué par son propre MeToo. Les témoignages inondent les réseaux sociaux et sont relayés par les médias. La page Balance ton major affiche les comportements problématiques au sein des labels. Le message est clair, le monde de la musique doit entamer sa mue pour devenir plus inclusif et divers. À Nantes, le collectif Zone Rouge, lancé depuis octobre 2019, veut laisser la place aux talents invisibilisés, personnes racisées, LGBTQIA+, et les femmes. Le collectif est dédié aux musiques électroniques et nous avons le plaisir d'accueillir deux de ses membres sur la Covidienne, Armel et Akira, bienvenue à vous.
Bonjour.
Salut.
Armel, tu es assistante de communication chez Trampo, un campus musical qui accompagne les artistes mais aussi bénévole dans l'émission Fast and Furious au sein de Radio Prune. Et Akira, tu es DJ résidente au sein du collectif et prochainement, tu vas t'occuper du booking toujours au sein du collectif. On va commencer direct. Est-ce qu'il y a trop de mecs cis dans la musique électronique ?
Waouh, question compliquée. Moi, je dirais personnellement que j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de mecs cis, en ce sens que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Il peut y avoir autant de mecs cis que de personnes LGBT, que de personnes racisées, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Le fait est juste qu'ils sont beaucoup plus représentés que les femmes ou les personnes queer ou racisées. Et c'est ça le vrai problème, et c'est pour ça, en fait, qu'on a créé Zone Rouge aussi. Même si c'est pas la seule raison, mais je pense que le fait est qu'ils sont beaucoup plus en avance sur la scène, ils ont plus de visibilité même en termes de réseau professionnel, en termes d'accès en fait, tu vois, à tout ce qui est genre des studios pour enregistrer, à du matériel pour mixer, enfin plein de choses comme ça qui font qu'en fait ça aide les artistes à pouvoir émerger et en fait je pense qu'il y a plein de femmes, plein de personnes queer qui ne se sentent pas légitimes à aller dans ce genre d'endroit parce qu'en fait il y a beaucoup d'hommes blancs cis, hétérosexuels cisgenres qui sont là et que du coup elles se sentent pas à l'aise avec non seulement par le regard des autres j'imagine mais aussi parce que t'as l'impression que comme il y a pas de représentation bah tu n'y as pas t'as pas le droit c'est pas ta place quoi en fait.
On dit aussi que il y a énormément de sexisme au sein de l'industrie musicale et notamment on parle parfois d'une zone de flou entre la vie professionnelle et la vie privée parce qu'on est en contexte nocturne parce qu'il y a de l'alcool des stupéfiants. Comment est-ce que vous viviez ça en tant que membre du collectif et aussi parce que vous avez vous-même un pied dans ce monde-là?
Akira et moi on s'est rencontrés à Macadam qui est un club de musique électronique. En fait, on s'est rencontrés parce qu'on faisait toutes les deux partie du staff. Du coup, je pense que c'est un bon commencement pour parler de ça. C'est vrai que ça se mélange facilement. Tu vois, on est devenus amis alors qu'on était collègues. Et pareil pour Soa et Asana. En fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, quasiment toutes. Et finalement, c'est vrai que c'est un peu flou la frontière entre amitié, collègues, soirée, travail. Enfin, en vrai, pour être tout à fait honnête, c'est vrai que je pense que c'est compliqué en fait de pas passer la frontière entre les 2, 3, 4 couches en fait, qu'on traverse tous. Après, je sais pas si c'est bien ou mal, j'ai pas vraiment de jugement de valeur à émettre là-dessus, tu vois. Chacun après s'ébrouille comme il peut, comme il veut. Mais le fait est que oui, c'est vrai que c'est assez poreux, les limites entre tout ça.
Donc justement, la plupart des membres du collectif, vous vous êtes toutes et tous rencontrés parce que vous travaillez, on va dire, soit en tant qu'artiste, soit au niveau des staffs dans le monde musical, c'est ça?
Oui, bah moi, à titre personnel, je pense que la première personne que j'ai rencontrée de Zone Rouge, c'était Anaïs, qui est Soa. Et on s'est rencontrés, mais plutôt dans la sphère, du coup, amicale. Et ensuite, on a commencé à travailler ensemble à Macadam. Et là, du coup, c'est devenu en plus professionnel. Et ensuite, après, j'ai rencontré Lola, j'ai rencontré Anaël, toujours à Macadam. Et ensuite, on a rencontré d'autres filles du collectif via, du coup, Soa et Asana, qui les connaissaient plutôt... Enfin, qui connaissaient en fait leur appétence pour certains types de musique et qui se sont dit, ah ben en fait, ces personnes-là, elles pourraient carrément rentrer dans l'esthétique zone rouge et elles seraient super intéressantes dans le projet. Du coup, d'autres filles se sont aussi rajoutées au collectif et c'est comme ça que Zone Rouge est née.
Moi, sur Nastar, j'ai connu les filles, je travaillais déjà à Macadam. Et on a commencé à parler de musique plus quand on faisait des fêtes extérieures et que, en fait, nous aussi, on avait envie de toucher et de découvrir, de ressentir ce que tu ne ressens pas en fait, confidence. Enfin,
bah, ouais. Mixer et... C'est hyper frustrant.
Ouais. c'est différent et on avait envie de tester. Et c'est, je pense, sans les filles, je ne me serais jamais lancée.
C'est vrai,
c'est bien d'être accompagné et d'avoir du poids. Parce que toute seule, tu pèses pas, quoi.
Ouais.
Tu pèses pas. Tu
t'as pas accès, en fait, aux platines parce que tout le monde te manspread. Personne te laisse la place. Enfin, c'est hyper compliqué, en fait, d'avoir accès. Et je me souviens d'une conversation qu'on avait eue, bah, justement, juste avant que le Macadam ouvre. Souvent, on avait des discussions entre collègues. Et à ce moment-là, je me souviens qu'on en parlait entre nous et je crois que c'est un peu là que ça a commencé. On s'est dit, mais c'est méga frustrant en fait, on n'a pas du tout accès aux platines, on aimerait trop pouvoir y toucher. Et je crois que cette discussion a lancé...
Et je pense que même si on voulait essayer, avant que ça commence, jamais on aurait pu toucher les platines. Quoi.
Bah ouais.
Par peur de... Enfin, peur qu'on casse, quoi.
Ouais, bah...
sur les débats.
Tu vois, ça recroise une autre discussion qu'on a eu aussi. Entre nous, mais c'est vrai que le fait est qu'il y a plein de... En fait, on connaît pas mal d'acteurs en fait, de la musique électronique, et le fait est que comme c'est nos amis, bah, en fait, c'est peut-être même encore plus dur que de supporter leur regard et de savoir comment faire pour réagir si on se loupe. Enfin, le regard des autres, c'est hyper dur en fait, à gérer, et je pense qu'en fait, un espace de collectif un peu en non-mixité, en fait, bah, ça permet de ouf de pouvoir vraiment s'exprimer soi-même et sans avoir peur que les autres te jugent ou quoi. Ça, c'était vraiment important, en fait, aussi, je pense, pour Soa et Asana quand elles ont voulu créer le collectif.
On peut peut-être parler d'une certaine manière de male gaze, en fait, mais vis-à-vis de vos performances musicales.
Oui, un peu, c'est vrai. Enfin, je sais pas si male gaze, c'est le mot, c'est plus... je sais pas, je dirais plutôt le fait qu'on nous laisse pas la place, donc plutôt manspreader dans ce cas. Parce que male gaze, je crois que c'est plutôt le regard masculin sur ce qu'on fait. On ferait. C'est pas vraiment ça qui me perturbait, moi, c'était plus... Bah, qu'en fait, ils ont toujours une posture de domination, vu que c'est des hommes. En plus, ils sont plus vieux, la plupart, que nous. En plus, ils sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, ça fait genre une dizaine d'années qu'ils mixent, donc autant vous dire qu'eux, ils maîtrisent leur sujet, tu vois. Donc je trouve qu'en fait, c'est pas tant le regard masculin, c'est plus le regard de... Enfin, si, masculin, mais en partie, quoi, mais c'est surtout cette posture de domination qui est difficile à gérer, enfin, pour moi, en tout cas, je sais pas toi. Mais...
Puis c'est pas comme s'ils étaient à nous proposer aussi de nous aider, de nous montrer, de... Et là, ça serait totalement différent, ou alors de nous donner des conseils juste comme ça, et pas juste le regard jugeur, en mode, bon, si tu fais une erreur, t'es mort, quoi.
Au moins ça.
Donc du coup, là, il y a vraiment tout le côté au niveau de la scène, mais aussi en tant que staff, vous savez ce qui se passe, en fait, dans le milieu festif. Par exemple, quand il y a des agressions, etc., est-ce que vous avez remarqué que parfois, les endroits où vous travaillez ne réagissaient pas forcément super bien, enfin, pas forcément super bien, de façon très, très safe ou bienveillante, mettez les choses sous le tapis, pardon, plutôt?
Je pense que nous, on a eu pas mal de chance avec Macadam, quand même. On a eu un nouveau groupe de videurs qui étaient... extraordinaire, c'était vraiment si on venait les revoir, si les filles, une des clientes ou un client venait les voir pour problème de racisme, sexisme, attouchement, n'importe quoi, la personne elle sortait directement du club. Donc forcément les personnes n'avaient pas tous le réflexe d'aller les voir, mais sauf venaient nous voir nous parce qu'on était des filles. Et surtout qu'on était témoins.
Ouais, on était
tout le temps,
témoins, ouais. Très très souvent.
Et à un moment il fallait prendre de.
Position.
Des décisions actives, et là maintenant c'était clair, il se passe une chose et puis ça dégage.
Ouais, il y a des. Je pense qu'il y avait des endroits où en effet, ça, sur les attouchements, etc., ils étaient méga, méga réactifs. Après, sur d'autres questions, j'étais un peu perplexe, mais bon, après, c'est aussi hyper compliqué à mettre en place, je pense, en tant que club et aussi en tant que personne homme cisgenre. Je pense qu'il y a des violences en fait que peut-être ils ne se rendent pas compte et que nous on voyait, enfin moi que je voyais, par exemple souvent dans les toilettes, il y a souvent des grands moments de violence. Et en fait, je pense qu'il y a plein de problèmes qui seraient résolus si par exemple on avait des toilettes mixtes ou si. Enfin tu vois, je sais pas, il y avait. Je pense qu'il y avait encore, tu vois, d'une marge de manœuvre, mais je pense qu'ils étaient vraiment dans une démarche de ok, on essaye d'en parler, on essaye de faire des choses à notre échelle, on améliore la situation, quoi. Mais bon, comme dans tout, on avance comme on peut, quoi.
Le collectif a fait plusieurs collaborations, par exemple avec la radio nantaise Didis, ou encore vous avez fait aussi des résidences au Disquaire, qui est bar, et aussi Label 44 Tours, toujours à Nantes. Par exemple, Akira, toi, t'as déjà mixé à ces occasions ?
Alors, au 44 Tours, pas encore. J'aimerais bien, enfin, je devais, mais ça sera en ligne. Et sinon, j'avais joué à Askip. Ça, c'était ma première date.
Oui, c'était ta première.
Ouais, ma première date avec des personnes, enfin, du monde devant moi. C'était assez incroyable.
Ouais, c'était ouf. Bah, c'était un peu la première date Zone Rouge en tant que collectif. Parce qu'en fait, Zone Rouge, peut-être on devrait parler un peu pour les auditeurs du collectif en tant que tel. Mais à la base, en fait, c'était pas un collectif. C'était plutôt genre Asana et Soa qui s'étaient réunis à deux, en fait, pour déjà elles-mêmes, elles se sentaient pas, je pense, en tant que personne, en tant qu'individu, de le faire toute seule. Donc elles se sont dit, bon, on va créer Zone Rouge pour nous deux. Et ensuite, on s'est un peu toutes rencontrées, et c'est là qu'elles se sont dit, ah, bon, on va faire un collectif, en fait, on va pas rester qu'à deux, c'est pas un duo, c'est un collectif. Et pour du coup commencer à faire parler un peu du collectif et de marquer un peu une première date, on a fait une date à Askip, qui est un bar associatif aux Beaux-Arts de Nantes, qui est assez chouette. En tout cas, le staff était vraiment hyper ravi de nous accueillir et d'accueillir ce genre de soirée. Enfin, c'était assez hyper bienveillant. Public hyper bienveillant aussi. Et c'était, je crois, la meilleure soirée de 2020. Voilà.
Comme ça, c'est dit.
Au moins ça.
Vous agissez sur Nantes. Est-ce que vous avez des liens peut-être avec d'autres collectifs ou des associations au niveau de la France? Ou est-ce que vous-même, vous essayez de mettre en place des choses au niveau national?
Je pense que ça va être dans un second temps, parce que comme disait Akira, on va commencer à un peu diversifier les activités du collectif, notamment au niveau du booking. Donc du coup, déjà peut-être dans un temps des podcasts, mais ensuite, qui sait, peut-être des dates en fait avec d'autres collectifs, et prendre un peu contact avec d'autres personnes qui font la même chose que nous et qui seraient tout à fait sur le même credo d'intersectionnalité, de mettre en avant des personnes qui sont plurielles, en fait, qui sont pas juste des femmes, qui sont pas juste des personnes queer. Enfin, en fait, on arrivera à faire entendre notre voix que si on arrive à tous et toutes se mettre ensemble et à faire valoir nos droits, quoi. Donc je pense que c'est vraiment pour le futur, ça serait vraiment chouette, en effet, de se rapprocher d'autres collectifs. Enfin, je pense à pas mal de collectifs, genre parisiens, ou même des radios aussi. Je sais que, par exemple, Ola Radio, ils ont quelques émissions qui sont assez chouettes là-dessus aussi. Il y a pas mal, même de juste des nanas seules, qui, je pense, seraient super intéressées de peut-être faire une date avec nous. Moi, j'étais en contact avec d'autres personnes qui sont à Brest, notamment des femmes. Et du coup, je pense que ça serait vraiment chouette de pouvoir faire ça quand le Covid voudra bien.
Vous voulez pas monter un festival Zone Rouge?
Oh, quelle bonne idée. On n'y avait pas pensé. Non, c'est une bonne idée, ça.
Oui.
J'avoue. Écoute, tu viens de nous donner une idée.
Eh bien, prochainement, le festival Zone Rouge.
Ça serait trop cool. Non, mais ouais, ça serait vraiment bien. Bon, on va voir ça. On en reparle.
Du coup, c'est vraiment l'occasion en ce moment, comme le monde de la culture est mis en veille de façon très très forcée, si bien par le gouvernement que justement la pandémie. C'est l'occasion pour votre collectif de mieux faire connaissance, je pense, entre membres, mais aussi de réfléchir à de nouveaux projets. On a déjà parlé du booking. Bon, l'idée du festival, mais bon, ça, voilà, c'est... Il y a d'autres choses que vous aimeriez mettre en place ?
En fait, Zone Rouge, c'est pas que, je pense, un collectif de DJ. Il faut aussi savoir qu'en fait, il y a d'autres membres de Zone Rouge qui sont aussi des danseuses, qui sont... En fait, on pense dans Zone Rouge que c'est hyper important d'avoir des gens qui mixent, mais c'est aussi hyper important d'avoir un public, en fait, qui suit et qui aide aussi à non seulement faire la fête, mais en fait aussi qui veille à ce que ça soit toujours bienveillant, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises dans le public et autres agressions. Donc, en fait, il y a plein de membres qui sont aussi des personnes qui touchent à tout. Il y a des journalistes, il y a des artistes, des architectes aussi. Enfin, vraiment plein de femmes différentes et qui... Femmes et personnes non-binaires et personnes trans, d'ailleurs. Qui peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice. Et je pense que ce serait aussi chouette que Zone Rouge continue comme ça à avoir d'autres personnes qui viennent avec nous, mais aussi... d'autres musiciennes, mais vraiment qu'on commence à s'expandre un peu et que ça devienne un projet un peu commun autour de la musique électronique et de toutes ces luttes-là qu'on porte en nous, quoi, en tant que personne. Et je pense que bah, déjà jouer, ça serait quand même un super projet. Bah, après, on pensait aussi peut-être bah, essayer de faire des soirées qui ne soient pas forcément que des soirées pour écouter, mais aussi avoir des formats de peut-être de talk show ou des podcasts, pour aussi avoir un endroit pour parler en fait, des valeurs qu'on porte et pas faire que jouer de la musique. Enfin, je pense qu'on a très envie de faire ça, mais c'est aussi important, je pense, d'avoir des endroits où on peut parler de sujets plus de société et de ce qu'on porte aussi en tant que personne et d'ouvrir le dialogue aussi avec d'autres gens qui sont dans le même milieu que nous mais qui n'ont pas forcément peut-être les outils ou qui ont besoin en fait peut-être de voir des gens commencer à en parler pour commencer à s'informer aussi. Et je pense que c'est hyper important ce genre d'espace. Ouais, créer un espace safe, quoi. Ça serait chouette.
Comment est-ce qu'on peut définir un espace safe pour vous?
Un espace où on n'a pas peur. Je sais pas, t'en penses quoi?
Pour moi, c'est juste se sentir à l'aise et pas être... Enfin, avoir une réticence en y allant.
Ouais, bah, avoir peur, quoi.
Ouais, voilà, il peut se passer n'importe quoi.
Enfin, c'est quelque chose, ouais, avoir peur de se faire agresser, avoir peur de... du regard des autres aussi, je pense. À
bien, je pense aussi c'est de ce que nous on essaye de véhiculer aux gens. Enfin, on veut que les gens perçoivent la bonne humeur, la bienveillance et
c'est, voilà. Ouais, c'est important, je pense que les gens comprennent aussi les messages qu'on porte et je pense que ça passe que à travers des espaces safe, quoi. Parce que en fait, les gens ils vont pas, enfin. Les personnes concernées qui voudraient peut-être nous rejoindre, elles ont vraiment besoin d'un espace où elles peuvent se sentir légitimes à parler, où elles peuvent se dire ben, pourquoi pas moi, quoi.
Mais ceux qui s'en fichent aussi, hein.
Oui, clairement.
Ceux qui sont à l'aise partout
aussi. Oui, c'est pas que un espace en non-mixité, je pense que c'est à terme. Enfin, moi, ce que j'aimerais en tout cas en tant que personne, je sais pas, je parle pas forcément au nom de tout le monde parce que je sais pas le point de vue de toutes les personnes de Zone Rouge, mais moi, j'aimerais beaucoup que ça soit. Qu'on puisse avoir des endroits mixtes, quoi. Qu'on puisse être à la fois... Enfin, côtoyer des hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, sans qu'il y ait de problème. Et que l'espace soit à tout le monde, en fait.
Lorsque vous vous présentez en tant que collectif ou que vous voulez organiser peut-être des choses en non-mixité pour le moment, comment est-ce que c'est pris par les hommes blancs cis?
En fait, on n'a pas vraiment... Enfin, disons qu'on a organisé en groupe non-mixte, mais les soirées n'étaient pas non-mixtes. Donc déjà, ça, c'est différent, je pense. Si ça avait été vraiment une soirée non mixte, là, je pense qu'on en aurait entendu parler, à mon avis. Mais déjà, je sais que rien que le fait qu'on soit un collectif non mixte, ça a déjà fait jaser dans les chaumières, hein, d'après ce que j'ai ouï dire. Et je me suis dit, en vrai, tant mieux. Enfin, en vrai, tant mieux. Hein. Limite, si ça les fait réagir, ça les... Même négativement, en fait, ils réagissent, ils se posent des questions. Et bon, certes, ils changent peut-être pas, ils restent peut-être sur leur position, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions et se dire, ah mais comment ça se fait qu'il y ait des meufs qui aient besoin d'un collectif non mixte pour se sentir bien dans un collectif? Mais qu'est-ce qui se passe?
Parce que la plupart des collectifs hommes sont non mixtes, quoi.
Oui, c'est clair. Mais ça, personne ne leur dit rien.
Après, nous, enfin, on ne peut pas qu'il n'y ait que des femmes non plus. On veut quand même l'égalité. On ne va pas interdire aux hommes de venir à nos événements. Ça serait contre-productif. Mais c'est juste partager la place. Et je pense que ça va arriver où... Enfin, c'est le moment où il faut qu'on prenne un peu plus de place pour qu'ils comprennent que, ok, il faut qu'on partage.
Clairement. Puis, ouais, comme tu dis, je pense que la non-mixité, je pense que c'est juste une transition, quoi, vers justement un espace qui serait idéalement et utopiquement partagé, partageable à tous et tous. Et je pense que c'est important, en fait, qu'on en parle, hein, de la non-mixité, c'est important. Enfin, je pense que vraiment, il faut qu'ils l'entendent, hein, parce que de toute façon, on va le faire quand même. mais je pense que c'est important d'avoir des espaces comme ça où on se donne de la force, quoi, mutuellement. Et en fait, je me rends compte à quel point c'est trop chouette pour ça, parce que avant, je faisais déjà un peu des choses. Mais vraiment, dans Zone Rouge, je me sens vraiment bien, parce qu'on est toutes hyper bienveillantes les unes envers les autres. On se donne des avis, on a des retours, on n'est jamais. Enfin, on se sent pas seul contre le monde. Et je trouve que c'est beaucoup... Enfin, ça t'aide, en fait, à t'affirmer toi aussi en tant qu'artiste, à vraiment faire un set qui te ressemble, commencer à chiner vraiment la musique que toi t'aimes et te sentir légitime à le faire. Et c'est hyper important. Vive les espaces non mixtes.
Une question plus personnelle. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire partie du collectif? Si toi, Kira, tu veux bien commencer.
En fait, on me l'a proposé, le projet. Il n'était pas encore monté. Et vu que ça m'attirait de faire de la musique, je ne savais pas du tout vers quoi ça allait déboucher. J'avais demandé déjà avant à des potes hommes de vouloir m'apprendre, mais c'est jamais abouti. Et c'était l'occasion du coup d'apprendre à mixer et d'avoir une culture aussi musicale qui était plus grande, de pouvoir découvrir plus d'artistes, de pouvoir échanger avec des personnes qui ont la même passion et qui sont en fait dans le même environnement et dans les mêmes débuts que toi. C'est pour ça que ça m'a un peu lancée. Je savais que j'engageais rien face aux gens ou c'était pour moi, quoi. De base, c'était juste par curiosité, en fait.
Je trouve ça méga beau de dire c'était pour moi.
Oui, j'étais curieuse de voir en fait ce que ça procurait d'être en fait derrière les platines. Parce que j'aime bien danser, j'adore ressentir la musique, mais en fait, est-ce que si c'est moi qui le faisais, est-ce que je ne ferais pas plus comment je danse et tout? Enfin, je me suis dit que ça pourrait m'aider et au final, je ne regrette pas du tout.
Bah, moi, c'était un peu la même chose. Disons que je crois que j'ai tourné grave autour du pot, tu vois. À la base, moi aussi, je dansais beaucoup, j'écoutais beaucoup de musique, j'allais tout le temps à des concerts, etc. Enfin, j'adore la musique depuis genre, que je suis née, je pense. Après, du coup, j'ai commencé un peu à tourner autour du pot, j'ai fait un peu de musique, mais bon, la guitare, c'était pas trop mon truc. Après, je me suis mis dans un collectif de mapping. Donc, du coup, en fait, je faisais des visuels, du graphisme, en fait, pour les DJ, donc pour animer la soirée et pour la rendre aussi transdisciplinaire, ce qui est un truc que je crois vraiment la transdiscipline, mais en fait, j'étais quand même méga frustrée. J'étais là, putain, mais qu'est-ce que j'ai envie d'aller derrière le boost? Et du coup, bah là, j'ai sur ça, à peu près sur le moment où je commençais à me dire ça, j'ai rencontré Anaïs. Soa. Et là, on a commencé à papoter entre nous et on s'est dit, mais ben, on avait les mêmes envies en fait, finalement, de se libérer de la peur qu'on avait en fait, de prendre des platines, on savait pas non plus où est-ce qu'on peut en trouver, dans quel endroit, dans quel espace on peut apprendre. Et en fait, vraiment, de se rencontrer, ça m'a libérée. Je me suis dit, mais oui, c'est ça que je veux faire en fait. Et après, j'ai commencé à toucher à des platines avec un autre collectif de femmes qui s'appelle Fast and Furious, du coup. Et là, je me suis dit, et ma première date, du coup, c'était un public pas facile, quoi. C'était un public de quarantenaires vénères, là. Je me suis dit, genre, oh là là, la musique que je vais passer, ils vont pas du tout kiffer. Et au final, ça a trop bien pris. Et je me suis sentie tellement bien, tu sais, d'avoir l'énergie des gens qui dansent et qui te renvoient de l'énergie. Et du coup, tu leur renvoies aussi de l'énergie. Et c'est un espèce de dialogue que t'as avec eux que je trouve, genre, incroyable. Et c'est devenu une drogue.
Armel, tu veux revenir sur ce que c'est que le collectif Fast and Furious?
Fast and Furious, oui. Donc du coup, Zone Rouge, sous la forme Soa et Asana, est née peu avant Fast and Furious. Donc en fait, les filles avaient déjà lancé leur projet, dont une émission à Radio DY10. Et à ce moment-là, donc, on s'était déjà rencontrés. Et pendant ce temps-là, moi, j'étais à Prune. Donc j'ai fait un service civique là-bas, c'est une radio. Et là, j'ai rencontré en fait deux autres personnes qui étaient déjà DJ de leur côté. Donc Lizzie, qui elle était DJ, mais elle travaillait plutôt sur vinyle, donc elle n'avait pas encore touché à des CDJ numériques, quoi. Et Dou, qui était aussi à Prune, et qui elle, du coup, c'était un peu la plus avancée de toutes celles que je connaissais d'ailleurs quand je l'ai rencontrée. Et du coup, bah pareil, même constat, on s'est dit, dans la radio, il y a 250 bénévoles, sur 250 bénévoles, il y a 70 personnes qui se disent DJ, sur 70, on est 3 meufs. Du coup, on s'est dit... Bon, bah en fait, lançons un crew, quoi. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. On peut pas être dans une radio avec 250 personnes et que 3 meufs qui mixent. Pas possible. Du coup, on a commencé à se dire, bon, bah on va se mettre, on va faire un crew, une émission, pour aussi avoir un instant de parole où on puisse, du coup, parler aussi, pareil, d'autres sujets, de parler de musique, de féminisme et d'autres sujets d'intersectionnalité, mais plutôt sur l'angle musical, quoi. Et en même temps, commencer à mixer, quoi. Et mixer ensemble plutôt dans des bars. Donc du coup, c'est aussi des sets un peu différents, tu vois, c'est aussi pas forcément la même musique. Et après, donc, j'ai rencontré Anaïs et Anaëlle, et je me disais que leur esthétique musicale me manquait aussi, parce que dans les bars, on peut pas tout mixer, évidemment. Et moi, comme j'adore vraiment la basse musique, et c'est vraiment ce que je préfère faire, c'était Zone Rouge, c'était aussi un moyen pour moi de me dire, bah en fait, là, je vais pouvoir faire de la musique club, et c'est aussi ça que je kiffe faire. Et Fast and Furious, c'était pas forcément l'endroit où je pouvais faire ça, donc c'était aussi un moyen, tu vois, de faire un peu de tout, quoi. Un peu mixer dans les bars, un peu faire de la musique en club avec d'autres personnes, et du coup, voilà, et de fil en aiguille, on a rencontré d'autres meufs à Zone Rouge, et c'est trop chouette.
Est-ce que chacune d'entre vous pourrait donner un, deux ou trois mots qui définiraient les valeurs de Zone Rouge selon vous ?
Bienveillance, ouais.
Bienveillance, partage et...
Moi, je dirais intersectionnalité quand même, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous motive, quoi, et qui nous définit même en tant que personne, parce qu'on est des femmes racisées, des femmes queer, on est toutes très différentes, et puis je pense que c'est hyper important pour nous de porter ces valeurs-là et de pas être qu'un collectif de féministes, mais qui ne regarderait pas, en fait, autour de lui et qui regarderait pas les autres luttes, et c'est pas... Pour moi, c'est vraiment important, je pense, et je pense que pour les filles aussi, ça l'est. Bienveillance, je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment un mot qui nous définit bien, je trouve.
Il y aurait l'amour aussi.
L'amour, oui, oui, bien sûr.
Partager de l'amour à tout le monde.
Ouais, carrément. Et puis, je sais pas, je dirais empowerment. Enfin, tu vois, on se donne de la force, quoi. Puis force tout court, d'ailleurs, parce qu'on est toutes des femmes fortes.
Des guerrières.
Des guerrières. Ouais, guerrières, elles diraient. Ouais, je pense, j'avoue, c'est vrai que par rapport à l'esthétique qu'elles jouaient, guerrières, c'est bien aussi comme mot.
Eh ben, on va conclure là-dessus. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, sur @zone-rouge, où vous communiquez sûrement les prochains événements qu'on vous souhaite, vous allez pouvoir organiser. Akira et Armel, je vous remercie d'être passés sur la Covidienne. On espère vous recevoir bientôt, peut-être à une autre occasion, pour parler des événements pour la suite.
Et un grand merci à Clémence pour la réalisation de cette interview. On va se quitter en musique avec un morceau sélectionné par Tina Torna des Jeux La Laisse nous en parler.
Du coup, pour faire court, je l'ai choisi parce que déjà j'aime beaucoup le label Comics and Records qui a été fait par les deux mecs de La Chinerie, quoi. Et du coup aussi parce que Miyako, c'est une productrice et DJ parisienne que j'aime beaucoup et que Lola aussi aime beaucoup. Et c'est parce que c'est quelqu'un de super engagé, elle fait des tracks incroyables, elle faisait partie du collectif qui embrouille avec AZF. Et je trouve qu'elle représente bien Zone Rouge parce que c'est vraiment une nana qui fait des trucs super contemporains, qui navigue un peu entre downtempo, entre house tribal, plein de styles qui, je pense, sont assez représentatifs de Zone Rouge. Et surtout, c'est vraiment une meuf de ouf.